petit témoignage, il y a plus de 25 ans, dans le cadre de mes études et de ma maîtrise d'écologie, eh bien, en hydrobiologie, on montrait déjà l'exemple de l'introduction de la perche du Nil dans le lac Victoria comme une catastrophe, un exemple de catastrophe écologique et humaine. Ce poisson a détruit les poissons fourrages, notamment le tilapia qui faisait vivre l'économie du pourtour du lac. D'autre part, les pêcheurs devaient ensuite s'équiper de moteurs de bateaux plus grands pour aller pêcher cette perche. Et pour la consommer, il fallait beaucoup plus de bois parce que c'est un poisson plus gros et plus gras que les poissons autochtones. Donc déjà, on annonçait il y a 25-30 ans une catastrophe écologique et humaine à venir. Bien entendu, on était loin de la réalité actuelle. Et ce ne sont pas les détracteurs qui sont pour la mondialisation et qui ne raisonnent que par le tout économique qui vont effectivement, qui sont crédibles dans cette histoire-là et je crois dans beaucoup d'autres exemples. Francis de Gironde.
Oui, bonjour. À la suite de l'arrêté de Montfermeil, je me suis demandé si les enfants Guémard, qui sont plus de 3 et qui plaient aux fées, etc., s'ils circulaient à Montfermeil, est-ce qu'ils seraient arrêtés? Non, je suis vache, parce que cette pauvre famille a déjà été expulsée de son appartement. C'est Romain à Paris.
Oui, bonjour. Je voulais réagir à l'auditeur qui racontait des âneries sur les honoraires des médecins. Les médecins n'ont pas vu leurs honoraires progresser de 25 à 30% l'an dernier. Et puis si ce monsieur considère que c'est si facile que ça, qu'on n'a qu'à se baisser pour ramasser, il fallait qu'il passe le concours de médecine. Moi, je suis fils de facteur et de secrétaire, ça n'a pas empêché de faire médecine. Et puis si ce monsieur est intéressé pour faire 50 heures par semaine, endosser de grosses responsabilités, il n'est jamais trop tard pour commencer. Allez, portez-vous bien. Au revoir.
Bonsoir, Mathilde d'Angers, 02 41 34 97 32. Voilà, je viens d'écouter l'émission d'aujourd'hui. J'ai entendu l'auditeur, qui a appelé pour critiquer les médecins, donc une caste, selon lui, juste bonne à s'en flanquer plein les fouilles sur notre dos, en fait, hein, puisque apparemment, plus on est malade, et mieux c'est pour eux. Et tout ça pour se faire séduire par le gouvernement actuel. Alors moi, je voulais juste lui dire à ce monsieur que... médecine, pour devenir médecin, il faut des années d'études après un concours hyper difficile. C'est des nuits de garde aux urgences par centaines. Et voilà quoi. Et puis pour se retrouver à bosser dans les petites villes ou les campagnes pendant des journées de 10 ou 12 heures, pas forcément pour se payer des 4x4 Mercedes, quoi. Juste aussi parce qu'on a le goût d'essayer de faire du bien aux gens, quoi. Moi, je suis pas médecin, mais mon père était médecin. Il était psychiatre et chef de service dans un petit hôpital de région à Dreux. Et puis, il est décédé il y a bientôt presque 10 ans. Et quand il est à son enterrement, quand il est décédé, il y a ses patients, des patients qui sont venus. Et peut-être que mon père, c'était un tiroir caisse, peut-être, hein, je sais pas. Mais moi, j'ai très peu vu toute ma vie parce que il bossait tout le temps, même le dimanche. Samedi, enfin les gens l'appelaient n'importe quand et ils venaient, ils se déplaçaient. Alors c'était peut-être pour s'en foutre les fouilles, je sais pas, moi on n'a jamais roulé en 4x4 Mercedes, on a toujours vécu normalement comme tout le monde. Mais le fait que les patients, que certains de ces patients se soient déplacés le jour où il est mort, je sais pas, moi ça m'a touché autant que la présence de ma famille et puis des amis. Parce que certes, il y a des médecins très fortunés et qui ont beaucoup de choses. Mais faut voir que c'est des gens qui travaillent aussi énormément, quoi. Vraiment énormément. Je suis bien placée pour le savoir. Voilà.
Veilleur de nuit d'hôtel pour travailler une nuit par semaine dans un hôtel, le mercredi ou le samedi. Contrat à durée déterminée de 7 mois. Expérience souhaitée de 2 à 3 ans comme veilleur de nuit. Salaire, 60 euros net la nuit. Durée hebdomadaire du travail, 10 heures hebdo, soit une nuit par semaine. Plongeur, plongeuse, vous travaillerez pour la saison de mai à fin août. Vous travaillerez le soir de 20h30 à 22h30. Vous ferez la plonge manuelle et à l'aide d'une machine. Salaire indicatif, 8,03 euros de l'heure. Durée hebdomadaire de travail, 12 heures hebdo, travail le soir uniquement. Voilà, vive le monde du travail, c'est super.
Bonjour, je suis Dominique, conseiller NPE à Nantes. aujourd'hui 116e jour de mise en place du suivi mensuel par la NPE, le contrôle des chômeurs se renforce ici comme ailleurs. Aujourd'hui, par exemple, j'ai reçu une personne au RMI qui ne parle pas et ne comprend pas le français. Je lui ai parlé d'offres d'emploi, elle n'a pas compris ces mots. Elle commence à prendre des cours de français. Il n'y a pas de dispositif qui aide les migrants ne maîtrisant pas la langue française à trouver un emploi. En attendant, on me demande de contrôler sa recherche d'emploi tous les mois. Conformément aux décisions prises en Assemblée Générale du personnel ANPE, je te livre ce témoignage.
Voilà, bonjour. C'est 17h51. On est mardi 25. J'ai 52 ans. Et je pleure. Ciao.
Raphaël Biolu, ben voilà, j'ai travaillé pour la même société que René. Ben écoute, René, bravo pour ton combat, on te soutient, on est tous avec toi et on sait qu'on est plusieurs milliers à être dans le même cas, donc haute fidélité, tu peux trembler. De toute façon, c'est nous qui aurons gain de cause puisqu'on est dans notre droit. Vous essayez de nous exploiter, très bien, mais puisque vous ne respectez pas les règles du jeu, nous on va vous les faire respecter. Voilà, sachez qu'on est des milliers et que c'est pas fini. À bientôt.
Voilà, un auditeur saisi par l'émotion, par les larmes, suite à pendant le reportage d'hier, et puis un autre qui dit, on va pas se laisser faire, ça suffit comme ça. De quoi s'agit-il ? Il s'agissait d'un animateur vendeur, c'est-à-dire d'un représentant d'un VRP, saisi face à une précarité vraiment outrancière. Et c'est ça un peu le thème de ces messages et de toute cette suite de cette époque, on pourrait dire, de cette époque. Vous avez entendu ce conseiller de la NPE, ces conseillers de la NPE qui ont décidé de faire une sorte de suite de témoignages perlés, comme on fait des greffes perlées sur le répondeur aussi, qui disent voilà, il se passe ci, il se passe ça. Chaque jour, on reçoit des messages de ce genre. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu Fabienne Brutus, cette conseillère de la NPE, qui en septembre a témoigné, fait ce long témoignage dans la Basse, j'y suis, dont un livre a suivi, qui a beaucoup de succès, et on s'en réjouit beaucoup. Parce que c'est des révoltes, c'est des courages, c'est des dénonciations, c'est plus, voilà, on est malheureux, on est victime, etc. Maintenant, ça réagit. Et on va rester sur ces apports des auditeurs. L'an passé, je crois, où on avait parlé du lobby des labos. Comment les labos, les laboratoires pharmaceutiques influencent et font pression sur, notamment sur le corps médical. Et on avait mis un peu au défi les représentants, les visiteurs médicaux de témoigner. Eh bien, il y a eu un auditeur, plusieurs d'ailleurs, mais dont un. Bon, qu'on a choisi, qui a dit, mais moi, non, pas du tout. Moi, je veux témoigner, je veux dire comment ça se passe, vous pouvez venir avec moi. Et c'est avec lui qu'on va aller aujourd'hui. Comment ça se passe? Ça, comment, à travers le visiteur médical, le médecin, le médecin est influencé, nous sommes influencés, nous sommes manipulés, et ce super pouvoir, le voulons-nous ou non dans une démocratie comme la nôtre. Il s'agit évidemment de dénoncer ces manipulations. C'est après les messages que voici à nouveau un bouquet de messages que vous avez laissés sur le répondeur de la Basse, j'y suis, dont le numéro est, et oui, vous le saviez, 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour, Dominique Rossi, dans les Hautes-Alpes. Il y aurait beaucoup à dire sur le travail de commercial, ce que je fais d'ailleurs. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 20 ans, célibataire, je touchais dans les 2600 euros. Aujourd'hui, 3 enfants, une compagne, j'ai eu un bon mois, j'arrive à 1400 euros. Voilà. Alors c'est vrai que les galères, on a tous connu, hein, servir dans des restos pour gagner la croûte que par entre deux chômages. Et alors, l'arme la plus formidable, c'est quand même l'AFPE. L'AFPE, c'est des stages, ceux auxquels j'ai eu droit, pris en charge par le patron, par les ACDIC pendant 5 mois, pour la formation. En fait, le gars, il vous embauche pendant 5 mois pour aller sur le terrain, faire du chiffre. Au bout de 5 mois, il vous dit, ben, vous faites pas l'affaire, merci, cassez-vous. Il a rien payé, tout était en prix et en charge par les ACDIC. Et en plus, il touche une prime de 1500 euros à la fin du stage. Ça, c'est des trucs qui se font beaucoup. Bon, ça se traite au prud'homme, mais sans trop d'espoir, quoi. Voilà, sans parler des techniques, les nouvelles techniques, les petits chefs qui vous donnent des ordres à la con. Voilà, à 50 berges, ben, c'est un peu la galère. Et on y va, parce qu'il faut faire vivre la famille. Ah, au fait, tiens, j'ai eu un redressement fiscal. 1 000 euros redressement fiscal, la camionnette devait être déclarée comme avantage en nature. Eh oui, les impôts ont considéré que je pouvais m'en servir le week-end pour trimballer la famille. Voilà comment on récupère de l'argent. Allez, bon courage à tous les mecs qui sont sur la route. Il faut y aller. C'est ça ou la rue. Allez, à bientôt. Ciao.
Je vous appelle à propos du témoignage que j'ai entendu là tout à l'heure. Nous sommes mardi 25 avril sur la vie de René, le parcours de René. J'écoute souvent Daniel Mermet, j'écoute souvent votre émission et toute votre équipe. Je suis très souvent bouleversée par tout ce que j'entends, mais aujourd'hui, ça fait un peu plus tilt, ou je sais pas, ça me rappelle quelque chose. Tout ce qu'il a dit, s'il y a des choses que j'ai connues, que je connais en ce moment. Moi, je suis assistante sociale et je cherche du travail depuis le mois d'octobre. Et je viens juste de décrocher un tiers-temps, c'est-à-dire sur un jour et demi, un CDI en tiers-temps, c'est-à-dire qui sera payé 420 euros à peu près par mois. J'ai deux enfants. Et en écoutant, je me disais, voilà, même les travailleurs sociaux, il n'y a plus de poste. J'ai reçu 3 courriers au moins qui me disaient « Votre candidature nous intéressait, mais je suis désolée, nous n'avons pas les budgets nécessaires pour votre poste. » Et je pensais à lui et je me disais que je suis encore un peu protégée par rapport à lui, mais j'ai vraiment eu très très mal au cœur, d'autant plus avec votre chanson de d'Eddie Mitchell, c'était bouleversant, voilà. Alors je suis de tout cœur avec lui, si je pouvais avoir ses coordonnées, ne serait-ce que pour le soutenir, le soutenir d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas trop, ça me ferait plaisir de lui dire deux mots. Tout ce qu'il a dit m'a beaucoup touchée, c'était tellement vrai et juste, sur sa vie personnelle, son parcours, la NPE, tout ça je connais, je suis en train de vivre tout ça moi-même.
Bonjour, bonjour, je vous donne un scoop, c'est le printemps. Les petits oiseaux, l'herbe si tendre qu'on en mangerait, la glycine est fleurie, le lilas aussi. Pour en savoir plus, rendez-vous au repère de Saint-Césaire en Charente-Maritime, c'est près de Saintes et pas loin de Cognac, au JO Café du Palais au Site, le dernier samedi de chaque mois. Le prochain rendez-vous, c'est samedi 29 avril à 15h30. Nous vous attendons avec votre bonne humeur et un bouquet de fleurs. À bientôt.
C'est pour dire bonjour à toute l'équipe et à tous les auditeurs et les prévenir que le gouvernement fait une grande consultation, bien évidemment que par internet, sur les OGM, sur le site www.ogm.gouv.fr. Cette grande consultation a commencé le 14 avril et finira le 28 avril, c'est-à-dire dans 2 jours. Donc il y a urgence de dire à tout le monde, allez sur le site et donnez votre avis. Le site est très mal fait. Il faut aller déjà dans expérimentation en France, puis consultation publique, et là vous pouvez donner votre avis. Il y a une adresse email mais qui est imbitable. Et bonne lutte à tous, et que les faucheurs vivent longtemps. À bientôt.
Oui, bonjour, c'est Julien. Je vous appelle un petit message pour René, donc le VRP qu'on vient d'entendre aujourd'hui. C'était pour dire que malgré tout, dans son malheur, il avait de la chance. Tous les jours, à 5h, il doit être dans sa voiture et il peut écouter l'émission. Voilà, salut.
C'est Daniel Mermet avec Guy Ventil. Salut, le lobby des labos.
Flight number 2, arriving from New York.
Comment on commence déjà? Comment on t'appelle?
Ah bon, on va dire que je m'appelle Charlie. Mon titre exact, il est délégué à l'information thérapeutique et je suis mandaté par un laboratoire pour porter une information éthique sur le produit. Mais sinon, la dénomination commune, c'est visiteur médical. Bah, visiteur médical, c'est de prendre sa voiture le matin et d'aller sur un secteur donné, d'aller visiter des médecins. C'est-à-dire qu'on nous demande de voir si on peut voir 6 médecins, c'est bien. Si on peut en voir en moyenne 6,5 par jour, c'est mieux. Donc on va voir les médecins, on attend en salle d'attente et on lui explique un peu les tenants et les aboutissants du produit qu'on présente.
C'est un peu VRP des laboratoires, quoi. VRP du médicament.
C'est VRP du médicament, tout à fait, puisque en fait, bien qu'on ne vende pas directement, on est marchand en médicaments, puisqu'on est là pour faire la promotion d'un médicament, et avant toute chose, c'est sa promotion. Ouais, c'est pas du tout une information objective, voire éthique, c'est une promotion suivant une stratégie marketing définie au préalable par le laboratoire.
On ne dit pas le nom du labo, et on ne dit pas non plus dans quel coin de France on est en train de tourner en voiture.
Non, on dira qu'on est quelque part en France, qu'il fait beau, et que si on dit le nom du labo, je risque d'avoir quelques problèmes. Parce que les labos n'aiment pas trop qu'on dévoile leur stratégie de communication. Les labos, c'est un monde qui génère beaucoup d'argent. Et donc, c'est pour ça que la discrétion reste leur maître mot.
Alors voilà, un petit tour avec un VRP, voyageur représentant placier, un petit peu particulier, même s'ils sont très nombreux, ces visiteurs médicaux, à travers notre petit hexagone. Ils seraient au moins 15 000, au moins 15 000, peut-être plus, 20 000, 25 000, selon des calculs différents, et de 17 000 à 24 000 exactement, et qui arpentent les départementales, les nationales, les autoroutes à la recherche des médecins. Ils arrivent à les trouver facilement. C'est pas toujours facile. Il y a un certain nombre de médecins qui sont rétifs, qui sont récalcitrants. Mais enfin, la plupart reçoivent ces visiteurs médicaux. Ils en reçoivent parfois beaucoup. C'est que votre médecin, là, que le brave type qui s'occupe de votre petite santé, de notre petite santé à chacun, eh ben, il coûte cher. Oui, il coûte cher à qui donc? Ah, mais pas à nous, bien sûr. Non. C'est au labo qu'il coûte cher, à l'industrie pharmaceutique qui dépense beaucoup, beaucoup d'argent pour le marketing. Plus d'argent pour le marketing que pour la recherche. Et on avance un chiffre faramineux qui est celui de ce que coûte un généraliste chaque année pour ce lobby pharmaceutique, eh bien c'est autour de 30 000 euros par an, c'est-à-dire autour de 200 000 francs chaque. Ça, c'est des chiffres qui datent de 1992. Hein, ça a dû augmenter un petit peu depuis. Donc voilà, on va faire un tour avec cet auditeur qui, vous le voyez, dans notre pays libre, reste absolument resté anonyme, mais il a eu le courage et l'envie de dire comment ça se passe. Il n'est pas le seul. Lorsque nous avions fait ces reportages sur les pressions de l'industrie pharmaceutique, vous avez été nombreux à vous manifester. Je parle aux visiteurs médicaux, à dire mais moi je suis d'accord pour témoigner, pour dire comment ça se passe. Et finalement, c'est avec Charlie qu'on se balade aujourd'hui avec ce délégué à l'information thérapeutique prestigieux.
Le but, c'est quoi? Le but, c'est de faire de la communication, c'est que les médecins connaissent les produits.
Voilà, qu'ils connaissent les produits et surtout qu'ils les prescrivent. Puisqu'on est là pour, en fait, on est là pour faire vendre, nous.
Ouais, donc ça veut dire que ça marche, quoi. C'est un boulot qui marche.
Ah bah, c'est un boulot qui marche, ouais. De plus en plus, sur les secteurs, on voit évoluer de façon croissante le nombre de visiteurs médicaux. La pression de visite est de plus en plus importante sur les médecins. Et on est là. De plus en plus, on nous demande de faire un boulot de vendeur.
Alors qu'à l'origine, c'est de l'information médicale. C'est présenté comme tel.
Voilà, moi, mon titre exact, c'est délégué à l'information thérapeutique. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que je suis là pour apporter une information sur le produit, mettre en garde le médecin contre les éventuels effets secondaires liés au produit, les interactions médicamenteuses. Et voilà, normalement, mon boulot, ça devrait être ça. Maintenant, il est complètement biaisé par le fait que mon labo me dise « vous êtes jugé sur des chiffres ». Ces chiffres, vous avez un objectif, donc il faut faire vendre. Il faut arriver chez le médecin, lui dire, faut prescrire le mien et pas les autres, quoi. Alors bon, comment on y arrive? Soit on y arrive par sa personnalité, soit par les moyens qu'éventuellement le labo peut mettre à notre disposition. Bon, puisqu'on peut très bien l'inviter à dîner ou à déjeuner, on peut l'emmener en week-end aussi sur base d'un congrès précis. Et puis on peut aussi lui proposer des études de type phase 4, des études rémunérées. Et déclaré pour lui, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il va prendre 4 patients dans sa clientèle, leur prescrire le produit concerné et être rémunéré de l'ordre de 800 à 1000 francs par chaque cas. Mais l'objectif est clair, c'est de la vente. On ne s'inscrit pas dans le souci patient, en fait, c'est quelque chose de secondaire, quoi. Notre produit est le meilleur, il faut à tout prix que le médecin le prescrive au patient.
Ah ouais.
Vous, vous êtes là, votre boulot, c'est de creuser avec la pelle, de creuser le trou de la sécu, en gros.
À mon échelle, ouais, tout à fait, je contribue. C'est mon boulot. Il faut savoir que les labos pharmaceutiques, c'est un lobby important en France. La visite médicale, c'est quand même beaucoup de monde sur le terrain. Donc,
combien de personnes? 15 000, je crois. 15 000 visiteurs médicaux qui patrouillent comme on le fait aujourd'hui, toute la France entière, chaque jour.
Voilà, c'est ça. Il y a 15 000 personnes qui, tous les matins, prennent leur voiture pour aller porter la bonne parole sur tout un tas de produits, quoi.
C'est ça, il y a un peu un côté missionnaire, quoi. Il y a un prêcheur de l'industrie pharmaceutique.
Voilà, en permanence, on va chez le médecin pour lui dire « Ne m'oubliez pas, mon produit fait ci, fait ça, il est meilleur que les autres. » Voilà, c'est ouais, prêcheur, ouais.
Et vous avez, vous savez, votre petit micelle, là derrière, avec tous les arguments pour le médicament. Puis le laïus a répété la profession de foi.
Voilà, en fait, je veux dire, pour le médecin, je comprends que ça puisse être un peu pénible, parce que quand il reçoit un réseau de visite médicale d'un labo qui lui parle de ce produit, et le lendemain, il reçoit l'autre réseau, parce qu'il faut savoir que les labos sont structurés en plusieurs réseaux de visite médicale, et que leur stratégie, c'est de dire, bah, plus on passe deux fois chez le médecin, plus mieux ça marche.
Voilà, voilà, c'est comme ça que ça se passe, au moins 15 000 tous les jours à circuler en France pour visiter les médecins. On va voir comment ça se passe, comment se passe cette visite. C'est des coups de marketing, des pressions amicales, des jeux d'influence. Le lobby des labos, le lobby pharmaceutique est l'un des plus puissants lobbies du monde. 43 groupes leaders sur le marché mondial du médicament, avec l'américain Pfizer, avec GlaxoSmithKline, avec Novartis, évidemment, Sanofi, Saint-Elabo, Aventis, etc. C'est l'ensemble de ces big pharma, comme on dit, dont 11 sont américaines, emploient au total près d'1,5 million de personnes dans le monde et réalisent plus de 400 milliards d'euros. 400 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il faut savoir qu'une seule molécule miracle comme le Viagra, par exemple, c'est le jackpot, ça fait jusqu'à 7 milliards de dollars de vente. 7 milliards de dollars de vente. Et il y a encore des possibilités. On sait que ce produit est limité en France. Alors, lobby des labos, influence, on va voir l'influence sur les médecins et donc sur notre vie quotidienne, sur notre santé, sur le trou de la sécu. Le Charlie avec qui se trouve Guy, il vient de nous le dire, et avec sa petite cuillère, il creuse le trou. Mais c'est aussi d'autres influences. Aux États-Unis, par exemple, ce lobby des labos, eh bien, en l'espace de 3 ans, entre 1997 et 2000, les laboratoires ont déboursé plus de 300 millions de dollars, 300 millions de dollars, pour soutenir les partis politiques de tous bords. Et le candidat Bush W ne s'en plaint pas, lui qui a récolté plus de 50 millions de dollars. Et comment, c'est un type qui est reconnaissant, l'air de rien. Il a pas l'air, mais il est quand même, il sait remercier ses amis et aussitôt installé à la Maison Blanche. Eh bien, le nouveau président avait nommé à la tête du bureau du budget l'un des plus grands ponts du secteur pharmaceutique, un ancien patron d'une grande boîte de produits pharmaceutiques. Voilà, c'est des choses que tout le monde sait et que Julie Joly dans l'Express avait souligné. Poids considérable de l'industrie pharmaceutique, de l'horreur pharmaceutique sur nos vies et sur la vie d'un médecin qui n'est pas forcément récalcitrant.
On arrive.
Alors on est en train d'arriver dans ce petit village en pleine campagne.
Eh bien on va faire une visite à un médecin généraliste en zone rurale. Donc on va, on va aller lui rappeler de ne pas oublier mon antibiotique.
Allons voir. C'est un bon client.
C'est un bon client. Il y a un collègue d'ailleurs.
Il y a un collègue visiteur médical.
Ouais, il y a une voiture 75, je pense que c'est un collègue.
Ah, donc le médecin est déjà sollicité. Là, on rentre. Bonjour. Alors, une salle d'attente. Est-ce que vous êtes patiente, vous, madame?
Ah non, je suis visiteuse aussi.
Ah bon? Vous aussi, vous êtes visiteurs médicaux? Ah d'accord, donc en fait, il n'y a pas de malades, il n'y a que des...
Et c'est que des visiteurs médicaux.
C'est fréquent, ça, qu'on arrive dans une salle d'attente et qu'il y ait 3 personnes avec leurs mallettes qui attendent.
Non.
Il n'y en aura pas plus de 3. Il y a une règle déontologique qui veut qu'on reste au maximum, qu'on soit 3 dans une salle d'attente.
Non, mais c'est rare qu'on soit quand même que des visiteurs médicaux. Il y a en principe des patients. Et en principe, on alterne même. C'est-à-dire qu'un visiteur médical, un patient, un visiteur médical, un patient. C'est, de toute façon, c'est le médecin qui décide.
Mais vous êtes des concurrents, tous les trois?
On
ne
s'aime pas.
On ne s'aime pas?
Non. On est très, très nombreux. On a mauvaise réputation quand même auprès des patients. On nous appelle les voyageurs.
C'est vrai.
C'est sympa, mais bon.
On raisonne en termes de chiffres. Et donc, pour faire du chiffre, il faut aller voir des médecins.
Ouais.
Merci.
Ah, c'est notre tour. Au revoir.
Bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour, docteur.
Allez.
Merci. Allez, le cabinet.
Oui, mais je vous écoute.
Ouais, bah simplement, non, vous rappelez l'utilité du DGB dans votre prescription au quotidien.
Cet antibiotique, oui.
Voilà, un antibiotique qui marche bien, notamment sur tout ce qui peut être germes type strepto, pneumo, donc qui n'engendre pas de résistance, ça vous le savez.
Oui, d'une prise facile.
D'une prise facile, absolument, qui facilite le confort et l'observance du traitement, puisqu'en fait, une prise de une fois par jour.
Oui.
De gélules, donc sous blister préformé.
Et pour une fois, les boîtes sont de bon dosage.
Tout à fait.
Puisque c'est un comprimé par jour, deux comprimés par jour, cinq jours.
Ouais, c'est ça.
Donc, en fait, 5 jours.
Voilà, tout à fait. Et recommandé en première intention par l'AFSAT.
Oui, mais ben, actuellement de peu d'utiliser puisqu'il n'y a pas de pathologie.
Il n'y a pas de pathologie.
Respiratoire. Ouais, ni ORL.
Rien, bah non.
Voilà. Ce qui fait faire des économies par certains autres parce qu'il est en bon dosage. Deux par jour, 10 jours, donc une boîte.
Donc 5 jours, donc une comprimé, une boîte.
Voilà, vous savez tout, docteur.
Comment on vous appelle, docteur A? Oui, oui, pourquoi pas.
Bon, vous êtes généraliste?
Oui.
Vous exercez donc en zone rurale?
Oui.
Ça fait combien d'années?
Oula, 1976.
Là, on est les combientièmes à venir vous visiter, par exemple?
Aujourd'hui,
ouais.
Les troisièmes, représentant les visiteurs médicaux. C'est pas une perte de temps, sinon je les refuserais. Ça permet d'apprendre pas mal de choses. Les laboratoires nous invitent quelquefois pour nous améliorer dans notre connaissance.
Qu'est-ce qu'il vous dit pas sur ce médicament, notre ami visiteur médical?
Pour le moment, il ne m'a pas parlé des effets secondaires, parce qu'il y en a toujours. Il ne m'a pas parlé des contre-indications chez certains individus, qui pourraient être diabétiques, qui pourraient être âgés ou trop jeunes. Moi, je sais que si j'avais, depuis 1976, si je n'avais pas eu de visiteurs médicaux, il y a plein de médicaments qui seraient passés sous le nez, que je n'aurais pas connus. Puisqu'on est quand même un peu isolé et que je ne peux pas lire la presse médicale tous les jours. Et qu'il faudrait que je m'abonne à pas mal de journaux de la presse médicale. C'est utile.
Aujourd'hui, grâce à l'action de la molécule FCD qui diffuse un froid constant.
Et si vous commenciez une nouvelle vie?
Vous aimeriez l'aide d'un expert. Réservé à l'adulte, bien lire la notice.
Médoc. On appelle ça, en argot, les médocs, pression des laboratoires sur des médecins qui affirment être de cette façon informés lorsque le visiteur médical vient. Arrive, vous avez vu comme ils sont nombreux. Voilà le point de vue de deux journalistes spécialisés, Martine Bullard, qui est au monde diplomatique et qui est en charge du dossier santé, et puis Philippe Pignard, qui est un repenti de cette industrie pharmaceutique. Il était dirigeant dans le laboratoire Sanofi Saint-Elabo et il est auteur de livres qui font pas mal de bruit, surtout chez les professionnels, mais pas seulement, aussi bien auprès du grand public, et notamment son bouquin Le Grand Secret de l'Industrie Pharmaceutique et comment sauver vraiment, entre parenthèses, la sécu, parce qu'évidemment ces préoccupations-là sont liées aux préoccupations générales du fameux trou.
Il faut aider les médecins français à résister à la pression de l'industrie pharmaceutique. Ne serait-ce que c'est la pression de la visite médicale. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des visiteurs médicaux qui viennent présenter les médicaments et qui les présentent forcément sous leur aspect le plus positif et qui sont formés, surformés à répondre à toutes les questions du médecin pour détourner son attention des éventuelles difficultés que ce médicament présente, de ses éventuels effets secondaires, de ses limites éventuelles. Ils sont formés à toutes les techniques pour ne pas répondre, ou pour répondre à côté, ou pour convaincre le médecin que sa question est une question inutile, à chaque fois que le médecin va poser le problème des limites du médicament ou de ses effets secondaires.
Mais sur l'état des lieux, est-ce qu'on peut dire que les prescriptions de nos médecins sont sous influence, justement, avec
oui,
cette formation?
Forcément. Qu'est-ce que vous voulez? Elles sont, d'abord, vous êtes formés éventuellement en allant passer un week-end à la Barbade, un week-end...
Est-ce que c'est vrai, ça?
Mais bien sûr que c'est vrai. Mais bien sûr que c'est vrai. Mais... Bien sûr que ça se passe pas aussi grossièrement que ce que je suis en train de vous dire. On vous dit pas, attendez, voilà, moi je produis tel produit, je vous invite à passer 2 jours à Venise avec votre femme, votre ami, tout ce que vous voulez. Non, on vous dit jamais ça comme ça. On vous dit, il y a un congrès sur le mal de dos qui est organisé comme par hasard avec l'entreprise qui produit le médicament contre le mal de dos. Après, le système se fonde comme ça. Mais enfin, il y a le service public. Il y a l'Agence française de sécurité sanitaire et médicaments qui s'occupe de ça, qui devrait avoir les moyens. Quand bien même ils voudraient... Ils sont 10, enfin je ne sais pas combien ils sont, mais ils sont très peu nombreux face à une armée de commerciaux qui sont formés au langage que vient de dire Philippe Pignard. Donc évidemment, qu'est-ce que vous voulez qu'ils puissent faire? Et moi, ça, je crois que c'est un problème de service public.
Et oui, rapidement, on en arrive au même constat. C'est pas une affaire directement de positionnement politique, mais on arrive tous au même constat, c'est-à-dire que le marketing, dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, le marketing prend le pas sur tout le reste. Et là, en l'occurrence, c'est quand même un domaine évidemment primordial, cardinal de nos vies. Quand le marketing prend le pas sur la recherche dans l'industrie pharmaceutique. Mais on l'a vu avec cette visite auprès de ce médecin, pour lui comme pour d'autres, comme pour pas mal d'auditeurs qui nous écoutent, il n'y a pas d'alternative. Et, ou bien alors, s'il y a une alternative, vous qui êtes si malin, ben dites-la.
Les réunions faites par les laboratoires sont intéressantes, faites par les médecins entre eux. Là, il n'y a aucun problème de marketing parce que c'est le laboratoire qui sponsorise, mais très souvent le nom du médicament n'est jamais cité.
Ouais. Mais c'est toujours les laboratoires qui payent.
Ce sont toujours les laboratoires qui payent, oui. Si vous avez une autre solution pour ce genre d'enseignement, dites-la moi.
Et ça coûte cher, par exemple, pour avoir une idée
Alors là, ça, c'est pas de mon ressort. Mais je sais que des soirées à thème ou des week-ends à thème, où j'ai fait un week-end il n'y a pas très longtemps, où nous étions une quinzaine de médecins. Hein? C'était 8 heures de travail le samedi, c'était 3 heures le dimanche. Et ensuite, nous étions donc au repas du soir, invités la nuit d'hôtel et le petit déjeuner et le repas de midi. Si le laboratoire fait ça, c'est rentable, mais c'était très, très sérieux, je veux dire.
Au revoir.
Au revoir.
Et bonne journée à vous.
Merci. Au revoir.
Alors Charlie, professionnellement, en tant que visiteur médical, qu'est-ce qu'on peut dire sur un médecin généraliste comme celui-ci, comme le docteur A, qu'on vient de voir? Il dit, c'est utile pour moi de voir des visiteurs médicaux parce qu'ils viennent combler un vide. Mais il dit, mais je me laisse pas influencer. Ce discours de promotion et de marketing, ça joue pas sur ma prescription. Est-ce qu'il a raison?
Oui, il l'est, c'est quelqu'un d'intègre. C'est quelqu'un qui va garder sa libre faculté de prescription. Maintenant, est-ce que le matraquage, le discours, le même message délivré par les laboratoires ne conduit pas de manière inconsciente à prescrire le produit? Bah, les labos misent là-dessus. La preuve, c'est que les gros labos qui ont les moyens multiplient leur réseau et donc accentuent la pression de visite médicale sur le médecin en délivrant un même message et en nous disant bien, surtout dans la conversation, de bien répéter le nom du produit pour que ça rentre de façon indélébile dans le cerveau du prescripteur. Voilà, ça c'est le message qui est délivré par les labos. Et donc on essaye de faire mémoriser le produit de manière inconsciente au prescripteur.
Inconsciente,
ouais. Ouais, inconsciente, je crois que c'est ça, ouais, parce que finalement, moi, plus on me répète un truc, plus je vais le mémoriser. Et là, je crois que c'est un peu la même chose. Après, on peut aussi envisager des congrès à l'étranger. Je pense notamment à un congrès de rhumatologie qui a lieu à Marrakech et sur lequel on peut inviter certains médecins.
donc des gros des prescripteurs ou quelqu'un qu'on veut remercier pour le travail de prescription qu'il a fait sur notre produit, il nous a beaucoup prescrit, eh ben on va lui proposer 3 jours ou 4 jours à Marrakech au congrès et tout frais pris en charge, bien sûr.
Est-ce qu'on bosse vraiment à ces congrès de médecins?
Disons qu'on bosse la moitié du temps, quoi. On bosse un peu le matin et puis l'après-midi, ben, on va visiter la ville en calèche ou on va au bord de la piscine ou on va faire du golf. Enfin, il y a quand même une animation diverse et non plus médicale de proposer.
Alors, on continue la visite. Qui on va voir maintenant?
Le docteur B.
Oui.
Il est médecin référent, éthique. Éthique, qui consacre beaucoup de temps à sa propre formation et.
Ouais. Alors, on va voir le docteur B. Ah, c'est quoi ça?
Ça, c'est l'agenda des VM.
C'est-à-dire l'agenda des visiteurs médicaux? C'est voilà. Dans la salle d'attente?
C'est dans la salle d'attente et ça sert à s'inscrire puisque ce médecin ne reçoit que lorsqu'on est inscrit. C'est-à-dire qu'il limite en fait la pression de visite médicale, il en prend 2 chaque jour. Dans ces 3 en fait.
Ah, et alors là c'est tous les labos qui
tous
sont
les labos, ouais.
Ça c'est juste une semaine par exemple du mois de mai.
Voilà.
Et il y en a 3 par jour, tous les jours. Sauf le jeudi. Et on voit les noms des laboratoires Roche, Pfizer, qui est le numéro 1 mondial, c'est ça?
Servier. Le beau français.
Pfizer qui revient un autre jour.
C'est un deuxième réseau Pfizer.
Aventis, Abbott.
Aventis et Beto.
Un autre Aventis
le vendredi.
Donc, sur ce mois-ci, ça fait...
Ça fera 50 labos.
50 labos qui sont venus voir ce médecin qui décide de limiter à 3 par jour.
Tout à fait.
Et donc, il peut, sur un même mois, se faire présenter plusieurs fois le même médicament.
Tout à fait. Même sur d'un jour à l'autre, hein, ça peut arriver. Puisque, en fait, tu t'inscris suivant les disponibilités. Et si tu regardes le cahier...
Juin, c'est déjà pris. Juillet, c'est déjà pris en partie. Septembre, c'est complètement pris. Jusqu'en novembre, il y a des rendez-vous qui sont pris. Ça veut dire que c'est vraiment une pression. Mais...
C'est fort.
Bonjour, docteur.
Bonjour. Entrez.
Merci.
Ça va?
Ouais.
Docteur B, nous voilà dans votre bureau.
Bon, moi je suis médecin généraliste depuis 20 ans. Ben, si vous voulez, moi j'estime que la visite médicale a un rôle important à jouer. Le problème, c'est qu'il faut qu'elle obéisse à certaines règles. Parce que, faut pas se leurrer, les laboratoires pharmaceutiques ne sont pas des entreprises philanthropiques. À partir du moment où elles investissent dans un domaine de recherche, effectivement, il faut qu'il y ait un retour sur investissement à la sortie. Au niveau financier. Donc, à partir de là, vous arrivez dans le côté marketing, commercialisation des laboratoires. Mais le point le plus important, je pense qu'il faut que le prescripteur garde son œil critique. Mais ça, c'est compliqué à faire pour des médecins, je le conçois tout à fait. Dans la masse d'informations qui sont diluées et amenées par le marketing des laboratoires. Oui, allô? Oui. Ouais. D'accord. Merci. Au revoir.
Alors les choses sont tellement, il y a une telle pression sur les médecins qu'il existe, on va rencontrer bien sûr, des objecteurs de visite, c'est-à-dire des médecins qui refusent l'accès de ces visiteurs médicaux à leur cabinet. Et il y en a même qui imposent aux visiteurs médicaux de payer. De payer comme pour une visite, vous me faites perdre mon temps avec votre visite, eh bien vous payez et les labos sont d'accord pour payer. Ça semble tout à fait aberrant. Il y a une espèce de monstruosité du marketing qui nous est on ne sait pas trop, on ne sait pas bien, on y pense et puis on oublie. Je rappelle quand même ce chiffre étonnant: l'industrie pharmaceutique dépense en France plus de 20 000 euros par an et par médecin, c'est-à-dire autour de plus de 130 000 francs par médecin. C'est ce que ça coûte au labo. Évidemment, tout ça s'est répercuté dans le prix des médicaments et bien évidemment dans le trou de la Sécu. Voilà, il y a peut-être une pistes là qu'on pourrait explorer, non?
Mais là, en l'occurrence, c'est un système pour la formation des médecins sur les nouveaux médicaments qui est entièrement aux mains du marché.
Quoi. Absolument, aux mains de la pharmacie.
Ce qui est très étrange d'ailleurs, c'est que finalement, vous employez le mot d'influence, soit que le mot est juste, parce que les médecins pensent intimement qu'ils sont indépendants et que ça ne les influence pas. Et ça, il y a une étude intéressante qui a été faite aux États-Unis. On a pris deux écoles de médecine, enfin c'est des universités, ce qu'on appellerait des universités pour former des médecins aux États-Unis. Une où les visiteurs médicaux peuvent venir, et une autre où il se trouve que les visiteurs médicaux sont interdits, parce que depuis, traditionnellement, on interdit aux visiteurs médicaux d'aller rencontrer les étudiants de cette école. Et donc, on a regardé c'est les étudiants de dernière année qui prescrivent déjà des médicaments, qui sont déjà stagiaires et qui prescrivent des médicaments. L'étude a regardé ce qu'ils prescrivaient et pour voir si là où les visiteurs médicaux venaient...
C'est-à-dire là où les laboratoires pharmaceutiques
venaient, pouvaient former, est-ce qu'il y avait une influence. Et on leur posait une double question en plus, on leur demandait, est-ce que vous pensez que vos prescriptions sont influencées par la visite des visiteurs médicaux. Bien, les résultats sont tout à fait stupéfiants, à savoir que effectivement, dans l'école où les représentants pharmaceutiques peuvent venir, les prescriptions sont complètement différentes et sont complètement liées aux visites qu'il y a eu, complètement liées. Mais les médecins répondent tous en même temps, on n'est pas sous influence. C'est-à-dire qu'ils sont sous influence, mais ils ne le voient pas. Donc c'est une vraie influence, au sens très subtil du mot influence. C'est-à-dire c'est une influence qui se rend invisible elle-même. C'est-à-dire que les médecins restent convaincus qu'ils sont totalement indépendants et que ça les influence pas et qu'ils font quand même comme ils veulent. Et là, c'est tout à fait, effectivement, c'est tout à l'heure. Maintenant, sur la consommation de médicaments, en France par rapport aux autres pays, comme si on prend les 10 dernières années, quand même, les chiffres 1990-2001, donc vraiment les 10 dernières années, quand même, la consommation, le coût, hein, la dépense en médicaments par Français a augmenté de 63% en France, alors que dans le même temps, en Allemagne, elle a augmenté de 17%. Donc oui, là, c'est quand même, ou en Italie, de 28%. On est les recordmen du monde. Alors, c'est vrai que... ça augmente partout. Ça augmente partout, mais ça augmente plus vite en France. Et si vous voulez, en France, quand même, il y a un vrai problème, c'est que c'est le pays où on consommait le plus. Mais les prix n'étaient pas très forts. Maintenant, on est toujours ceux qui consomment le plus, mais les prix deviennent très élevés. Là, c'est vraiment une question qu'il faut avoir en tête. Comment on aide les médecins à mieux résister à la pression de l'industrie pharmaceutique?
L'efficacité en 3 points pour mieux respirer.
1. Ma poitrine.
Pour décongestionner. 2.
Mon dos.
Pour aider à calmer ta toux sèche.
Et 3.
Et on reprend la visite.
Et en 3, on repart, ouais. Il faut voir 6 à 7 par jour.
6 à 7 par jour.
Ouais, c'est ce que demande le labo en règle générale. Et si tu peux en faire 7, c'est mieux. Enfin bon, c'est vrai, moi j'ai un boulot qui me permet de... Quand même, je travaille dans des conditions décentes, j'ai un boulot intéressant, j'ai des relations humaines, j'ai des collègues, ça se passe bien avec eux, c'est sympa quoi. Je veux dire, t'as quand même un sentiment d'indépendance, mais qui a tendance à se restreindre maintenant. Je vois que tu deviens beaucoup plus instrumentalisé pour faire du profit quoi. Tu sais, moi je connais 2 ou 3 personnes qui, dans ce boulot de visiteur, ont pété les plombs quoi, littéralement. C'est-à-dire ont tout arrêté du jour au lendemain et soit sont au chômage, soit sont reconvertis dans tout à fait autre chose. Quoi. Parce que les chefs, eux aussi, sont tellement sous pression qu'ils la communiquent à leur entourage le plus direct, à savoir leurs visiteurs médicaux. Quoi. Donc je pense qu'il y a des choses à améliorer dans cette profession, peut-être, qu'il y ait une instance indépendante qui se penche sur la question en obligeant les laboratoires à communiquer de manière un peu plus rigoureuse et de manière un peu plus honnête. Pas tous, mais certains qui sont connus et identifiés et qui sont, je veux dire, c'est de l'épicerie, quoi, ce qu'ils font. On vend des trucs qui servent à rien. Enfin bon, mais bon, il faut vendre. Comme me disait, je travaillais dans un labo où le directeur de la visite médicale nous disait, vous êtes des fantassins. C'est-à-dire qu'on devait avancer en formation serrée pour arriver à nos objectifs. Donc c'est vraiment une guerre, tu vois, c'est...
La guerre économique.
La guerre et les images, ouais, c'est très guerrier. On est les meilleurs. Tu vas dans les séminaires, les 10 meilleurs montent sur le podium, sont longuement applaudis. Et on leur dit, voilà, vous avez devant vous les exemples vivants du laboratoire, quoi. Pour te remotiver vraiment et que quand tu reprends ta voiture le lundi matin, bah t'en fasses 8, quoi. Voilà, parce que t'es censé être le meilleur dans un environnement hyper concurrentiel. Et puis on te fait pétocher, ouais, parce qu'on me dit, attends, t'as vu ta moyenne ce mois-ci, t'es qu'à 5,80, qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais que si ça continue, ça posera problème. Puis bah tu vois, des fois le soir quand j'en ai un peu marre,
Je m'arrête au bord d'une rivière comme doit y avoir là, et puis je prends ma canne à pêche et je vais à la pêche.
Comment ça va? Ben moi ça va. Et toi? Ben ça va. Et ton chat, comment qu'il va? Eh ben il va comme un chat. Aïe,
aïe,
oui. J'ai mal.
J'ai mal, et ben on a la solution, les médicaments. Mais les médicaments, sous pression, les médicaments, sous influence, à travers des médecins, sous influence. On a parlé d'une corruption ordinaire, et là on voit que ben voilà, c'est à l'œuvre. Avec, grâce à cet auditeur, visiteur médical, il n'est pas le seul d'ailleurs à avoir accepté et voulu témoigner. Vous avez vu, sous couvert d'anonymat, on dira pas dans quelle région il circule. Il fait partie des 15 000 ou plus visiteurs médicaux qui arpentent notre pays. C'est un métier très offensif. On voit tout le côté militaire, le langage, les euphémismes, les entourloupes langagière, c'est une armée au service des labos. Les laboratoires pharmaceutiques consacrent autant d'argent aujourd'hui au marketing qu'à la recherche. C'est quand même à la recherche de nouveaux médicaments. C'est quand même, on pourrait s'attendre à ce que ce soit l'essentiel de leur but et de leur mission. Et ben non, c'est d'abord le marketing. Et on se trouve maintenant avec des problèmes de maîtrise des dépenses de santé. Suivez mon regard. Et justement, on parlait de médecins qui résistent, qui s'opposent à cette pression. Donc voilà, chez le docteur Bessel. Lui, il dit son nom, il s'appelle pas A, il s'appelle pas B, il s'appelle Bessel. Voilà, c'est son nom et il parle à visage découvert. Ça peut paraître étonnant, mais c'est le cas.
Bernard Bessel, vous êtes généraliste?
Oui.
Alors, pour justement, pour faire cet entretien, je suis un peu le mode d'emploi. Là. Je me suis fait donner le référentiel métier visiteur médical, une méthode pour réussir. Et je prends la posture d'excellence. Alors je vais essayer. Jambes écartées dans l'axe des épaules. Je sens tout le poids de mon corps sur mes deux pieds. Jambes souples au niveau des articulations des genoux. Tête droite. Les épaules en arrière dégagées. J'adopte une respiration abdominale. Ces quatre points me libèrent de l'énergie et me fabriquent de la confiance, du plaisir et du calme, qui fait que peut-être j'arriverai à vous vendre, moi, des médicaments.
Donc, je suis médecin généraliste, effectivement, et donc je reçois les visiteurs médicaux depuis le début de mon installation, qui remonte maintenant à 29 ans. Au début, je les recevais librement. Ils passaient par là et comment ils se mélangeaient aux patients dans la salle d'attente. Ils attendaient leur tour et je les recevais. Une fois, ils étaient 11 dans la matinée.
11 représentants de commerce qui font la queue leu-leu.
Alors ce jour-là, j'aurais dit que je les recevrais que ce rendez-vous parce que c'était plus possible, quoi. Bon. Alors je continue malgré tout à les recevoir parce que donc, je coordonne pour la revue Prescrire un réseau qui s'appelle le réseau d'observation de la visite médicale. L'idée, c'était un petit peu de savoir ce qui se passait dans les cabinets, dans le colloque singulier qu'il y a entre un visiteur médical et un médecin. On se rendait compte qu'il y avait donc certains laboratoires qui demandaient aux visiteurs médicaux de déraper par rapport, en fin de compte, aux autorisations de mise sur le marché qu'ils avaient, d'élargir les indications, d'augmenter les posologies. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai créé ce réseau, parce que j'espérais pouvoir améliorer la visite médicale. Et là, depuis 14 ans, je me suis aperçu qu'il n'y a eu aucune amélioration, ni dégradation d'ailleurs, c'était quasiment nul, ça reste quasiment nul, en termes d'intérêt pratique pour la prescription du médecin. Donc la visite médicale pourrait être intéressante si effectivement, lorsqu'on présente les nouvelles molécules, en même temps, si on mettait en garde le médecin contre les effets indésirables de ce produit, si on le mettait en garde contre les interactions médicamenteuses qu'il peut y avoir avec d'autres produits, si on lui rappelait à chaque fois quelles sont les contre-indications, toutes ces informations-là, effectivement, ce serait utile au médecin. Mais c'est passé sous silence. Il n'y a même pas 10% des cas où ce travail est fait. Même pas 10% des cas. Ce qui fait que les médecins qui participent à mon réseau, comme après avoir vu le visiteur médical, de l'avoir bien écouté, en remplissant leur fiche, ils regardent la fiche Vidal.
Et
ils
la Vidal pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu la Bible.
C'est le gros dictionnaire rouge qui est sur le bureau du médecin, dans lequel sont recensés les milliers de médicaments qui existent. Donc, ils comparent avec ce document ce que le visiteur médical leur a dit. Ils s'aperçoivent immédiatement des choses qui ont été omises, des choses qui ont été fausses, ce qui fait que généralement au bout de 6 mois ou d'un an, ils nous disent je me suis rendu compte en participant à ce réseau que c'était complètement inutile, c'était une perte de temps de recevoir visiteurs médicaux, je ne les reçois plus.
Est-ce qu'on peut dire que les médecins sont sous influence, que les prescriptions se font sous influence?
Alors, a priori, en prenant mon cas, je dirais non, parce que en fin de compte, je les vois venir avec leurs gros sabots, et en fin de compte, ça ne me fait aucun effet. Or, même en étant persuadé que ça n'a aucun, que ça glisse sur nous, en fin de compte, on se rend compte que ça joue. D'ailleurs, je pense que si l'industrie pharmaceutique dépense 25 000 euros par médecin prescripteur et par an pour faire connaître ses produits, c'est parce qu'elle pense en tirer un bénéfice, sinon elle ne le ferait pas.
25 000 euros d'investissement marketing des laboratoires par médecin en France.
Voilà, exactement, 25 000 euros. Il doit y avoir environ 30 milliards d'euros de prescriptions médicamenteuses et ça représente à peu près 10% de ce chiffre d'affaires. Alors c'est une somme extrêmement importante. En plus, donc, c'est une somme en fin de compte qui est financée par la sécurité sociale, puisque cette somme-là, elle est comprise dans le prix de vente du médicament. Et en fin de compte, c'est la sécurité sociale qui le rembourse. Alors on se dit quelque part que la sécurité sociale ou le ministère de la Santé, pour une somme qui serait sûrement moindre, pourrait faire cette information thérapeutique en fin de compte aux médecins, et ça permettrait sûrement qu'il y ait moins de prescriptions. Et à un coût en plus moins élevé, quoi. Donc là-dessus, je ne reproche rien aux visiteurs médicaux qui font leur travail. Je ne reproche rien à l'industrie pharmaceutique qui vend ses produits. Je ne peux pas reprocher grand-chose aux confrères qui, en fin de compte, ont l'impression de s'informer au contact des journaux médicaux et au contact de ces visiteurs médicaux, puisqu'on ne leur propose rien d'autre. Et de plus en plus de médecins, quand même, c'est encore assez marginal, mais je pense que ça doit être de l'ordre de 10-15% des médecins ne reçoivent plus de visiteurs médicaux, ont compris qu'ils auraient quand même peut-être l'esprit plus libre pour prescrire s'ils ne recevaient pas ces visiteurs médicaux. Donc ça participe, en fin de compte, à l'indépendance du médecin et à son sevrage de sa nourrice, l'industrie pharmaceutique, là, qui dès qu'il couine un peu, lui apporte du lait et du miel.
Le lobby des labos, merci à tous. Merci à Charlie, Martine Bullard et Philippe Pignard. C'était un reportage de Guy Van Cline. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Technique aujourd'hui, Sophie Moreno et Adrien Jouanet. C'est Antoine Chaoyan-Chouquet qui ont réalisé cette émission modeste et géniale. Pascal Pascariello est notre assistante et c'est Christophe Imbert qui s'occupe du répondeur dont le numéro est 01 56 40 37 37 et le mail de l'émission c'est daniel.mermet@radiofrance.com réclame.